Fréquence Mistral. Bonjour à toutes et à tous, auditeurs et auditrices de Fréquence Mistral, bienvenue à l'épisode 9 de ma chronique Une vie de langue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean Dalcoletto. Bonjour Jean.
Bonjour.
Bienvenue
Bonjour
à la radio.
Bonjour aux auditeurs. Ouais.
Oui, tout à fait. Bienvenue à la radio. Jean, première petite question très simple. Est-ce que vous pouvez vous présenter? D'où venez-vous et quelle langue parlez-vous?
Alors, je suis donc Jean Dalcoletto. Je suis le président de la Maison d'accord de Marseille et ma langue maternelle est le corse. Je suis originaire de Bastia, j'y suis né, j'y vais tous les mois, et j'ai toute ma famille qui est en Corse, hormis mon fils et ma femme qui vivent ici, sur le continent.
Voilà. Vous êtes donc né à Bastia, vous y avez vécu jusqu'à environ quel âge ?
J'y ai vécu jusqu'au bac, je suis parti après à l'université, j'ai commencé à Grenoble en première année, à Montpellier en seconde année, et troisième année, et j'ai fini mes études à Lyon, en droit. Voilà.
Vous m'avez évoqué que le corse est donc votre première langue, votre langue natale.
Tout à fait.
Quand est-ce que vous avez commencé à parler le français ?
Alors, c'est assez contemporain du corse. Étant né à la moitié du XXe siècle, le corse était implanté de façon assez massive. Et on entendait de façon contemporaine le corse et le français, mais majoritairement c'était le corse. Chez moi, on ne parlait jamais français. D'abord parce que le corse est notre langue vernaculaire, hein, et mon grand-père, par exemple, mon grand-père paternel ne parlait pas du tout français. À la maison, avec mes parents, avec mon frère, avec toute ma famille, on n'utilise encore maintenant que le corse. Hein. Si on s'exprime dans une conversation téléphonique avec mon frère, par exemple, que j'ai eu tout à l'heure, en français, c'est pas naturel. C'est comme si nous, maintenant, nous nous mettions à parler l'anglais, par exemple. Ouais. Donc, même si il est vrai que les deux langues, français, corse, étaient utilisées dans mon enfance de façon contemporaine en même temps, nous nous exprimions très très majoritairement, en quasi-totalité en dehors de l'école, en langue corse, dans la famille, à la maison, dans le quartier, quand on rencontrait les copains, dans les commerces, au bar, à la plage. C'était la langue à l'époque, encore dominante. Voilà.
Est-ce que vous pourriez nous faire une petite démonstration, notamment peut-être en vous présentant simplement en corse ?
Ah oui, si beau fa, ben là c'est quoi ? Donc, mi chiamo Giovanni Alcoletto, so Bastiaccio, vengo da città di Bastia, e ci sono stato allevato sino a mo partenza per l'università, don primo tempo della città di Grenoble, dopo Montpellier e dopo Lyon.
Super, merci beaucoup. C'est très agréable et beau à écouter. J'entends très rarement, si ce n'est jamais, du corse. Est-ce que vous pouvez justement nous parler un petit peu des racines de cette langue ? J'entends souvent, peut-être de façon abusive, que le corse ressemble à de l'italien ou de l'italien du français mélangé. Comment est-ce que vous réagissez à ces propos ?
Alors, je vais me permettre un petit peu d'humour. Beaucoup disent que le corse vient du latin. Alors nous, bien entendu, comme nous sommes modestes, nous soutenons le contraire. Nous soutenons que le latin vient du corse. Bon, mais ceci dit, plaisanterie mise à part, le corse est une langue romane qui vient directement du latin. Nous conservons dans notre langue des formules qui sont typiquement latines. Hein, par exemple, pour dire toujours, en latin, c'est « semper », en corse, c'est « sempre ». Bien entendu, on peut faire la liaison, la comparaison avec l'italien. L'italien, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est le toscan. C'est une des langues régionales italiennes qui a pris le dessus, comme en France, la langue d'Oil par rapport à la langue d'Oc. Hein. La langue officielle italienne est le toscan, mais il y a bien d'autres langues régionales italiennes. Et quand on dit la relation entre le corse et l'italien, la réalité, aussi bien sémantique que philologique, c'est que le toscan, comme les autres langues régionales italiennes, et le corse ont évolué parallèlement. Ce sont des langues qui sont pour le moins cousines germaines, si ce n'est des langues sœurs, qui toutes, bien entendu, très majoritairement, mais pas seulement, viennent du latin. Il y a d'autres influences limitées que l'on retrouve dans notre langue, par exemple, même l'anglais, puisque nous avons eu un royaume anglo-corse entre 1794 et 1796. Nous avons quelques mots qui nous viennent d'anglais. Par exemple, la boisson en anglais, c'est beverage, et en Corse, c'est à peu près le même mot. Le mot boire, c'est bay, ouais. Bay, ouais. Donc, c'est une langue majoritairement, de toute façon, romane, latine. Ouais.
Dans les différents invités que j'ai eus, il y avait des nationalités différentes, des langues différentes, et venait souvent l'idée qu'au sein même d'une langue, il y a différents accents, voire différents dialectes. Est-ce qu'un Corse du Sud, un Corse du Nord, par exemple, parle le même Corse ou pas? Qu'en est-il des différents accents sur l'île?
Alors, retenons une chose, notre langue est une langue polynomique. Même si on a deux principales expressions, une du Nord et une du Sud, même si ça constitue la même langue, nous avons à l'intérieur de ces grosses masses, Corse du Sud et Corse du Nord, ce que nous appelons des régiolectes. Nous avons des expressions différentes, des mots différents, peuvent se retrouver soit en Corse du Nord, soit en Corse du Sud. Hein. Parfois, de village à village, qui sont proches, les mots sont différents. Mais c'est une même langue. La différence ne se retrouve pas seulement dans le domaine du vocabulaire, mais il y a également des différences dans le domaine de la grammaire. Je vais vous donner un exemple.
Oui.
Pour l'imparfait, la première personne de l'imparfait de l'indicatif des verbes du premier groupe, par exemple « canta », en Corse du Nord, on dit « cantawa », « je chantais », avec un « va » à la fin. En Corse du Sud, c'est « cantaya », avec un « i ». Mais bon, on se comprend entre nous, c'est pas un gros problème.
D'accord, super intéressant. Vous évoquiez de votre enfance que le corse était parlé majoritairement dans votre famille, ensuite vous avez dit à l'époque. Qu'en est-il aujourd'hui?
Alors, nous avons actuellement une prédominance dans l'expression orale et écrite du français. Nous avons des villes, des villages dans lesquels le corse reste très majoritairement employé, mais il y a une montée en force, montée en puissance du français comme langue de tous les jours, et singulièrement comme langue du pain. La langue du pain, c'est très important pour l'évolution d'une langue. Mon cas, par exemple, à l'époque, le corse n'était pas enseigné quand j'étais enfant à l'école. Donc, moi, c'était pas un problème, c'était ma langue maternelle et la langue de ma famille. Mais l'enseignement du corse est venu assez tard. Hein. Même si on parle de 1970-71, lorsque le corse est introduit à l'école, alors que une partie des autres langues régionales était introduite en 1951 par la loi de Dyson. Le corse est introduit à l'école plus tard. En l'état, aujourd'hui, on milite, on se bat pour que le corse revienne dans les familles, dans la rue, dans l'entreprise, que ça redevienne la langue du pain comme ça l'était avant. Et nous avons des écoles immersives, nous avons un recteur actuellement qu'il nous convient de défendre d'ailleurs parce que son poste était en danger il y a quelques jours, qui a pris l'option de créer 70 classes immersives dans l'Académie de Corse. Et nous avons, nous, des classes immersives associatives qui s'appellent Scola Gorsa. Hein, et nous avons des associations qui sont extrêmement actives pour la défense, la promotion, la transmission de notre langue. Nous avons dans les médias, c'est important les médias, et c'est pour ça que je vous félicite de ce que vous faites pour les langues régionales dans cette émission-là, c'est très important.
Merci.
Très important. Nous avons par exemple dans nos médias en Corse, aussi bien radiodiffusés que télévisés, que dans la presse écrite, nous avons une occupation d'antenne qui n'est pas négligeable avec la langue corse. Il y a, il me semble me rappeler que, par exemple, pour l'équivalent de la radio Ici Provence, qui est une des 40 et quelques stations régionales du réseau Radio France, en Corse, c'est RCFM, Radio Corse Frequenza Mora, et je pense qu'on arrive aux alentours de 50% de l'occupation d'antenne en langue corse. Très important. Moins dans la télévision, mais par exemple, nous avons ce que nous appelons chez nous Uno di Dial, le journal télévisé, par exemple, vous avez en français en Corse. Vous avez, quand je compare, par exemple, sans vouloir être critique vis-à-vis de Ici Provence, le temps d'antenne consacré à la langue provençale dans la radio locale Ici Provence, c'est très très peu. Vous avez une chronique le matin sur le parler marseillais, mais il y a très peu d'expressions occitanes ou provençales dans les médias ici. C'est pas le cas en Corse.
D'accord. Vous parliez des classes immersives et c'est peut-être une transition assez intéressante sur vos activités professionnelles d'enseignant ici en France métropolitaine. Vous m'aviez évoqué que vous étiez donc premièrement le président de la Maison de la Corse, mais aussi que vous enseignez dans un établissement. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus de cela ? Quelle forme cela prend ?
Voilà, donc j'enseigne au lycée Lacordaire, qui est dans le 13e arrondissement, donc seconde, première et terminale. Et le système de l'option de langue régionale au baccalauréat a changé depuis la loi Blanquer, qui a été d'ailleurs, j'ose le dire, je me culpabiliserais si je n'en parlais pas dans ces termes-là, la loi Blanquer a été un vrai recul pour l'enseignement des langues régionales dans l'éducation nationale. Le système a changé d'un système où il y avait une seule épreuve à la fin de la terminale. Nous sommes passés à un système de contrôle continu au lycée, surtout première et terminale, et avec une baisse des coefficients, moins attractif pour les élèves, à tel point que à l'entrée en vigueur de la loi Blanquer, alors que nous présentions, il me semble, de mémoire comme ça, aux alentours de 250 élèves à l'épreuve orale de l'option de Corse au bac, nous sommes passés à zéro à l'année de mise en application de la loi Blanquer. Donc ça a été vraiment un effet immédiat.
D'accord. Voilà. Et le programme que vous enseignez, est-ce que vous le rédigez ? Est-ce qu'il vous est donné par le ministère de l'Éducation nationale ?
Alors, nous avons des ouvrages qui sont édités, composés par l'ancien, ce qu'on appelait avant le CRDP, qui fait tous les ouvrages, les manuels de cours et toute la doc qui peut être utilisée dans l'enseignement. C'est Canopé maintenant, hein, le nom Canopé. C'est Canopé qui publie les ouvrages que nous utilisons, aussi bien ici à Scola Gursa, à la Maison de la Corse, que dans le réseau de l'éducation nationale.
Et je suis curieux à savoir le profil des élèves qui s'inscrivent à vos cours de Corse. J'imagine que vous avez des élèves avec des origines corses, peut-être pas que.
Pas que. Alors, effectivement, majoritairement, hein, ce sont des élèves qui sont d'origine corse, mais pas que. Il y a des gens qui ont découvert la Corse, des parents qui sont venus en vacances avec leurs enfants. Et assez souvent, d'ailleurs, il y a l'attrait de notre polyphonie. La polyphonie, dans notre culture, l'expression poétique par le chant, c'est quelque chose d'extrêmement vivant. Il y a des élèves qui ont été séduits par des chants polyphoniques de nos groupes actuels, dont certains sont connus au niveau international. Voilà. Mais ce n'est pas forcément des gamins qui sont d'origine corse ou corse.
D'accord.
Il y en a qui... Bon, des fois aussi, vous avez le phénomène « Ouais, je suis le copain, il s'est inscrit en Corse, j'y vais aussi, c'est intéressant. Voilà. » Bon. Mais majoritairement, ce sont des compatriotes.
D'accord. Et justement, pouvez-vous nous expliquer un petit peu la communauté corse, alors à la fois en Marseille ou même à l'échelle vraiment métropolitaine? Qu'en est-il? Est-ce qu'elle est chiffrée? Est-ce que vous la côtoyez? Comment vous la côtoyez?
Oui, c'est d'abord historiquement... Les Corses de Marseille, vous avez des premières vagues migratoires qui viennent de deux endroits en Corse. D'une part, le Cap Corse, sont plutôt des commerçants, des marins, qui s'installent à Marseille pour faire le commerce du corail, qui réussissent. Et si nous avons la place de Lanche à Marseille, c'est parce que Lanche, c'est une famille de l'extrémité du Cap Corse, côté ouest, qui vient faire commerce, qui réussit. Et c'est pour ça que nous avons une place de Lanche. Vous avez une deuxième vague, ça c'est le 15e, 16e siècle. Vous avez une deuxième vague qui est plutôt militaire. Ce sont des militaires qui suivent un condottier qui s'appelait Saint-Pierre Ougours, qui vient se mettre au service de François Ier, donc on est à la Renaissance. Et ceux-là sont plutôt originaires du sud de la Corse, anciennes. Communauté corse de Marseille. J'aime pas trop le mot communauté, mais bon, peu importe. Les Corses de Marseille.
Les Corses de Marseille, mettons-nous
voilà,
d'accord
c'est
là-dessus.
C'est une présence ancienne qui s'est maintenue, qui s'est augmentée considérablement fin 19e, début 20e, avec les emplois qui était proposé autour du port de Marseille, dans les administrations, bien entendu. Hein. Et il y a eu un appel d'air qui s'est fait au début du XXe siècle, qui ont donné lieu à l'installation de grosses familles, bon, qui n'étaient pas toujours, d'ailleurs, dans la stricte légalité, quand on a vu, dans le domaine... du banditisme. On a eu des personnalités politiques qui ont marqué le monde marseillais, mais on a eu également bon, des gens qui étaient dans un autre, qui avaient passé le Rubicon de l'illégalité, disons, qui ont fait carrière ici. Et pour chiffrer, le regretté Edmond Simeoni, qui était le papa de l'actuel président de l'exécutif de l'Assemblée de Corse, chiffrait, lui, la présence des Corses à Marseille à un niveau de 100 à 150 000 individus. Alors, ça paraît surprenant parce que ça fait un huitième, un peu plus même, un huitième de la population de Marseille, hein, ça fait 800 000 habitants, Marseille. Mais si on considère tous les Corses actuellement dont les familles se sont installées, par exemple, au XVIe siècle, il est évident que vous avez rarement, quand vous discutez en tant que Corse avec un Marseillais, vous avez rarement quelqu'un qui vous dit « Ah non, moi j'ai pas particulièrement de famille, ni de connaissances. » C'est très rare. Mmh. Quand vous discutez avec un Marseillais, il y a toujours un lien entre lui, sa famille, et soit la Corse, soit les Corses. C'est quelque chose qui est très, très répandu.
Ouais, c'est intéressant. Vous êtes donc le président de la Maison de la Corse. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette structure, ses activités, alors, vos responsabilités?
La Maison de la Corse, en fait, c'est l'appellation de l'association. C'est une fédération qui s'appelle Fédération des groupements corse de Marseille et des Bouches-du-Rhône. On regroupe 26 associations. Ces activités, nous avons bien sûr, comme on le disait, l'enseignement de la langue. Nous avons l'enseignement de notre polyphonie. On a 4 ateliers de polyphonie, 4 jours dans la semaine, 4 soirs dans la semaine. Nos activités, c'est le soir, puisque les gens travaillent. Nous organisons avec ces ateliers, en fin d'année par exemple, des soirées pour restituer les travaux qui ont été faits dans l'année. Nous avons un atelier de théâtre, nous avons un atelier de généalogie, nous faisons de l'histoire... avec 2 conférences par mois. C'est une société napoléonienne qu'on a créée il y a longtemps déjà. Les conférences, hier soir, tiens, il y avait 2 conférences à la Maison de la Corse. Nous avons donc, au niveau culturel, dans la transmission de notre langue, de notre culture, de notre histoire, des manifestations quasiment tous les soirs. Tous les soirs. Ainsi, par exemple, nous avons le 22 novembre, nous avons à côté d'ici, au temple Rue Grignan, à partir des 8 heures, un concert de musique classique, piano-violon, c'est un couple, Anton et Valeria Alerini, lui est enseignant dans un conservatoire parisien, piano. Nous avons une soirée musique classique sur les œuvres d'Henri Tomasi, qui est un compatriote. Nous aurons après Ravel et Beethoven. Ça, c'est tout proche. Et géographiquement et dans le temps, chronologiquement, le 22 novembre. Le 4 décembre, par exemple, nous avons notre soirée de Noël avec... alors, quelque chose de très particulier, vous verrez que c'est intéressant. La poésie en Corse est souvent... pas seulement déclamer, mais chanter. Et le 5 décembre, nous commençons notre soirée de Noël avec ce que nous appelons « Chiama e rispondi ». « Chiama », ça veut dire « appeler », et « rispondi », bien entendu, ça veut dire « répondre ». Et vous avez, là, il y aura deux improvisateurs qui vont se produire chez nous. C'est une improvisation totale. Quand le premier prend la parole... l'autre ne sait pas de quoi il doit parler, et c'est très encadré. Ce sont des vers de 8 pieds, et chaque strophe qui constitue l'appel ou la réponse, c'est sur 6 vers. Donc, 6 vers, chaque vers faisant 8 pieds, très encadré. Et pourquoi c'est systématique ? Parce que la mélodie qui est employée a une césure qui permet de retrouver les 8 pieds sur chaque vers. Souvent, c'est jamais agressif, c'est jamais mal intentionné, et les spécialistes disent que les 2 derniers vers doivent être dans l'humour, comme la vague qui vient s'écraser sur le rocher, ça doit éclater, l'humour doit éclater dans les 2 derniers vers. Donc le 5 décembre, nous commençons notre soirée par cette discipline-là. Après, nous aurons des groupes de la Maison de la Corse qui se produiront. On a Zilvawal, qui veut dire la belle forêt, donc, qui est calqué sur l'adresse où nous sommes, au 69 rue Zilvawal. Et vous aurez Abaoulin, qui est dirigé par un jeune compatriote qui s'appelle Paoli. Hein, voilà. Et ça, c'est le 5 décembre. Voilà. Mais on a beaucoup de manifestations.
Bien sûr. Voilà. Et j'invite donc les auditeurs et auditrices à aller sur le site internet de la Maison de la Corse ou de s'y rendre directement pour découvrir toutes vos belles activités ludiques, culturelles. Je vous propose pour conclure, comme vous le savez, nous concluons toujours les épisodes en musique. Vous m'avez envoyé une musique, Jean, une musique corse. Pouvez-vous nous la présenter avant qu'on écoute cela ?
Alors, c'est pourquoi je vous ai envoyé cette chanson, c'est parce que, d'une part, elle est chantée par un groupe qui est dirigé par le leader, c'est un ami, qui s'appelle Antonio Marielli, qui maîtrise totalement l'oral et l'écrit aussi bien en Corse du Nord qu'en Corse du Sud, ce qui est assez rare. Grand compositeur, interprète. Son groupe qui s'appelle Diana il Alba, déjà le mot est intéressant puisque Diana il Alba, c'est l'étoile que l'on voit apparaître la première le soir et qui disparaît la dernière au matin. En fait, c'est l'étoile du berger. Et c'est le mot corse de l'étoile du berger, Diana il Alba. Diana, c'est un ancien mot qui voulait dire la porte. En fait, c'est la porte de l'aube, hein, le titre. Et cette chanson, pour moi, est importante parce que le texte est sur la défense de la langue corse. Et elle est importante aussi parce que on disait tout à l'heure que notre langue est polynomique, et vous avez chaque strophe qui est interprétée par un chanteur membre du groupe qui utilise son parler local. Donc vous avez Antonio Marielli, qui est plutôt du sud, qui a été élevé du côté de Sartène, qui fait la première strophe, et après, tous ceux qui interviennent dans le chant utilisent leur langue locale, bon, qui est très, très globalement la même pour tout le monde, mais on reconnaît quand on s'adresse à un compatriote, les premiers mots qu'il va dire, on le localise, nous. On sait à peu près d'où il vient. D'abord par les mots qu'il emploie, par son accent, par la prononciation dans certains mots du L, par exemple. Vous avez des micro-régions chez nous où le L est prononcé, c'est une labiale donc, est prononcé en guttural comme un R. Par exemple, Falgue, où je descends, dans le nord, côté Bastia et côté Balagne, par exemple, le L devient R, ça devient Fargo. Donc cette chanson montre la réalité dans notre langue, et surtout, c'est un texte pour que notre langue vive, continue à vivre. Parce que, avec tout ce qui s'est passé encore récemment, hein, vous avez par exemple un jugement assez récent du tribunal administratif de Bastia qui interdit l'usage de la langue corse à l'Assemblée de Corse, par exemple. Ce jugement a été confirmé par la Cour administrative d'appel de Marseille. On est au Conseil d'État et on ira à l'Europe, on ira à la CEDH pour avoir la position de l'Europe sur ce sujet. Donc ce texte et cette musique qui est belle, par ailleurs, c'est la défense de notre langue et pour qu'elle vive, pour qu'elle continue à vivre.
Magnifique, merci beaucoup pour cette très belle présentation. Sans plus attendre, écoutons cela.
Usangui di un spirito e a me lingua. Io uso la lingua corsa, un voto mica mora, so la lingua materna di li voscianti nati. Per chi a tempo d'oggi volemo te navora, o corsi senza me sariti sbattizzati. M'avete già spudato di lì parole antichi, m'avete infrustirito e m'avete ingannato di ciò che uso stata ferma a pochi vestighi, perché avete vergogna di tena come parlato. Io so la lingua corsa di li voci maiori che è stata adoprata fra gli segulisani, qui da per di oma, qui da per di dolori, qui da che è stata sempre in bocca di anziani. Io sogo la santa lingua che dopo un colombo ni chiamava l'aiuto a salva un paese, so chi da chi chiria a polvere e piombo pastir passaracini greci o genoesi. So la lingua di quelli che oggi sono spariti, chi giace in statara di dolo e di pianto, e poi soviglioli firmati russurriti, si ingira poi in corso visigando lamento. So la lingua materna di le vostre mammone che contava nuvole in giro all'uvugone, che contavano gioie, che contavano affanni in l'unico parla di tutto l'urudione. So quella che lontano chiamava un rispetto fra la gente amica e anche più forestera, so quella che sincera sputava dal vetro di due borsi spersi in un fondo di galera. Se voi perdita me, perdita vostra razza, non sa m'intara più né cepo né casata, né sare in sto mondo una rubaccia lazza, un corso un